Qu'il s'agisse du tripalium, instrument de torture, ou bien de la traps, ce qu'on appelait traps, la poutre utilisée comme ancêtre du joug pour les bêtes de somme, et qui va donner d'ailleurs en français moderne le verbe entraver, eh bien l'idée d'une souffrance est toujours présente dans ce qui fait l'étymologie du mot travail. Alors, le travail est évidemment présenté dans la Genèse comme un châtiment, comme une souffrance, mais il est aussi le moyen par lequel les hommes vont pouvoir vivre dans une nature désormais hostile. Il est à la fois honni et désirable. Il est recherché par ceux-là même qui n'auront de cesse ensuite de le dénigrer. Il est libérateur, mais il est aussi aliénant. Le travail révèle évidemment par le simple fait de sa nécessité l'inachèvement et l'imperfection des hommes. Inadaptés à la nature, nous nous devons de la transformer pour pouvoir y vivre. Or, cette transformation pénible, parce que la nature résiste, parce qu'elle fait obstacle, eh bien, cette transformation pénible est aussi l'occasion de l'acquisition de l'humanité, de l'apprentissage de toutes les ressources dont les hommes disposent par nature. Le travail, sans jeu de mots, en vaut donc la peine. Certes, l'effort qu'il réclame doit être quotidiennement renouvelé. Le travail est un besoin, il comble un manque qui revient. Et cette répétition nécessaire constitue la première forme d'aliénation, en fait, qui, dans le monde antique, va le disqualifier. Marqué du sceau de l'ambivalence, donc, le travail peine à se dire et les représentations qu'en donnent les hommes varient avec les âges. Ainsi, on a coutume de poser le travail tel que le percevaient les anciens, discrédité, déprécié, indice d'une subordination à la nature, à notre conception prétendument positive de ce que les modernes associent dès le XVIIIe siècle à toute production d'un accroissement de la richesse. Mais la représentation antique n'a pas vraiment disparu. Elle se prolonge encore aujourd'hui, car si le travail n'est plus l'affaire des esclaves, il va rester longtemps celui des prolétaires, c'est-à-dire de tous ceux que le besoin enchaîne à la nature et que la nature fait souffrir. Faut-il donc tout naturellement travailler moins pour vivre mieux? Souscrire à cette affirmation serait supposer que le travail est par nature douloureux, pénible, on vient de le dire. Mais en fait, à y regarder de plus près, est-ce que ce n'est pas plutôt la culture qui rend cette activité douloureuse et pénible? La culture au sens de l'organisation sociale. Assurément, le travail tel qu'on le représente dans nos sociétés contemporaines se laisse malaisément appréhender du fait d'un tour de passe-passe sémantique qui va être dénoncé dès 2005 par Galbraith. Dans Les mensonges de l'économie, il écrit, en effet, travail désigne à la fois l'obligation imposée aux uns et la source de prestige et de forte rémunération des autres. User du même mot pour les deux situations est un signe évident d'escroquerie. D'escroquerie. L'escroquerie, c'est ainsi de feindre de comprendre le travail comme une donnée anthropologique, ce que nous avons fait au début de ce podcast, alors que très rapidement, eh bien, il va s'imposer comme un phénomène sociologique. Travailler, c'est certes une nécessité qui consiste à produire les conditions matérielles de mon existence, c'est une nécessité anthropologique, mais cette production, eh bien, elle s'effectue toujours dans un cadre déterminé. Déterminé par une organisation sociale qui distribue aux uns le monopole du travail libérateur et gratifiant, et aux autres celui du travail aliénant et ignoré. Il est donc trompeur de s'interroger sur un avenir du travail sans distinguer le travail aliénant du travail libérateur. Marx, à la suite de Hegel, ne confond pas le travail aliénant avec le travail libérateur. Le premier, le travail aliénant, c'est le mauvais sort du dominé. Le second, ce sera la bonne fortune du dominant. Le travail aliénant, ce sera celui de l'esclave, celui du monde antique, mais pas seulement. Celui qu'on retrouve par exemple dans les champs de coton du sud des États-Unis, comme dans les champs de canne à sucre des Antilles. Le travail aliénant, c'est toujours aujourd'hui celui de la maison, chronophage, obscur et nécessaire. Voilà, donc il y a une répartition du travail qui s'effectue. Je préfère dire répartition plutôt que division. Le mot division ne dit pas l'inégalité, mais exprime simplement la rationalité de l'organisation sociale, alors que la répartition du travail renvoie davantage à une domination. Répartition et domination sont étroitement liés, et ils sont si liés qu'il faut probablement voir dans la première, c'est-à-dire la répartition du travail, l'origine de la seconde, la domination, par exemple, des hommes sur les femmes.